les documents de la grenouille. Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.
So we need to get rid of capitalism.
So we need to get rid of capitalism.
And replace it with something better.
And we replace it with something better.
Just here in this square.
Just here in this square.
De la démocratie comme dispositif discursif, c'est le sujet du dernier livre du philosophe Alain Brossa publié aux éditions Aldent. Alors Alain Brossa est professeur à l'université Paris 8 et son enseignement est essentiellement axé sur la philosophie politique. Il est également membre, entre autres, du comité de rédaction de la revue Ligne. Quelques ouvrages pour situer le travail d'Alain Brossa, aux origines de la révolution permanente, fête sauvage de la démocratie, le corps de l'ennemi, hyperviolence et démocratie, la paix barbare, essai sur la politique contemporaine, la démocratie immunitaire, le serviteur et son maître, essai sur le sentiment plébéien, ou encore la résistance infinie, ou ce qui fait l'époque, philosophie et mise en récit du présent, et puis dernièrement, autochtones, imaginaires, étrangers imaginés, retour sur la xénophobie ambiante aux éditions du Souffle 2013. Alain Brossa est dans les studios de Radio Grenouille. Alain Brossa, bonjour.
Bonjour.
Alors, on l'entend dans le titre de vos ouvrages, le mot « démocratie » revient souvent. C'est donc un objet d'étude de longue date pour vous. Et dans ce dernier ouvrage, « La démocratie », édité aux éditions Aldent, il ne s'agira pas de poser la question « qu'est-ce que la démocratie ?» ni de poser la démocratie idéale ou historique, mais plutôt une analyse de l'usage du mot « démocratie », de quoi cet usage est-il la manifestation ou le symptôme, écrivez-vous. C'est la question donc directrice du livre, considérant que cet usage du mot « démocratie », si on l'étudie, celui-ci finit par dire quelque chose, malgré tout, de ce qu'est la démocratie aujourd'hui. Et ce qu'elle est, selon vous, rien d'autre qu'un dispositif discursif. Nous sommes ensemble pour une heure pour déplier ce dispositif discursif, pour tenter de comprendre avec vous la manière dont il fonctionne. Tout au long de cet entretien, ce sont aussi les travaux de Michel Foucault qui nous accompagneront, puisque vous lui empruntez et la méthodologie d'analyse à partir de la circulation des énoncés, c'est-à-dire la question du dire, et puis aussi vous lui empruntez sa thèse sur le gouvernement des vivants, la biopolitique. Il s'agit donc, dans cet ouvrage, d'une étude de l'usage de l'énoncé flottant qu'est la démocratie, à l'intérieur d'un mode de gouvernement spécifique propre à nos sociétés contemporaines. Première question, Alain Brossa, peut-être pourquoi avoir choisi plutôt cet angle de s'intéresser à la question de l'usage du mot et pas les questions effectivement de définition.
C'est la perspective que j'essaye d'approfondir de bouquin en bouquin, effectivement, comme vous l'avez dit depuis déjà pas mal d'années, quoi. J'ai pas, sur ce point-là, sur d'autres sans doute, mais sur ce point-là, je n'ai pas changé d'axe de perception, ni de recherche sur la question de ce qui se désigne comme la démocratie avec tous les guillemets qu'on veut. Bon. Le titre, le vrai titre de ce bouquin, en fait, il est beaucoup plus sarcastique et même sardonique et à la limite nihiliste que ce qu'en dit la couverture du bouquin, puisque le vrai titre du livre, c'est « La démocratie », le mot qui fond dans la bouche, le concept qui fond dans la tête. Mais évidemment, c'est un titre un peu long et un peu kilométrique pour un petit format. Donc, le sarcasme a été renvoyé en page intérieure, bien évidemment. Bon, mais c'est ça, le sujet de ce livre, c'est ça, c'est-à-dire essayer de saisir la façon dont toute espèce d'essence ou de substance de la démocratie, qu'on l'approche par les institutions, les mœurs, les façons d'être, peu importe, ou par son histoire, toute espèce de substance ou d'essence file littéralement entre les doigts de qui essaye de le saisir ou de le fixer. Et finalement, ce qui, au bout du compte, à l'examen, va demeurer, c'est les enjeux, comme vous l'avez rappelé, c'est les enjeux du discours, c'est-à-dire la façon dont s'agencent des rapports de force dans des énoncés. La démocratie et les usages qu'on en fait aujourd'hui, c'est l'enjeu de rapports de force dans la langue. Et ces rapports de force dans la langue, c'est ce qui permet finalement que la chose tienne encore envers et contre tout, alors que toutes les Cassandres de l'époque nous disent que la chose en question, elle est quand même terriblement mal en point.
Alors je citais Michel Foucault dans l'introduction, c'est une pensée qui vous accompagne aussi, je crois, depuis longtemps. Et au fond, qu'est-ce qu'elle vous permet comme grille de lecture, ces travaux de Michel Foucault ?
Je pense que ce que Foucault m'a permis de comprendre sur cette question-là, c'est deux choses, en gros, c'est-à-dire l'importance cruciale de ce qui se joue dans l'agencement des discours. Ça vient notamment d'un livre, de deux livres de Foucault, L'ordre du discours et puis L'archéologie du savoir. Bon. Il s'agit de saisir comment, au fond, une époque, elle est constituée par par les règles, disons, de formation des énoncés. Ce qui donne son trait à une époque, et je simplifie évidemment ici énormément, c'est la façon dont on peut ou ne peut pas agencer des énoncés à propos de ce qui va baliser un champ social, un champ politique, un champ historique, etc. En d'autres termes, ce qui importe, c'est la façon dont on peut faire des distributions en termes de ce qui est énonçable, ce qui n'est pas énonçable, ce qui est vrai, ce qui est faux, naturellement, puisque ça se relate, ce qui est vrai et ce qui est faux se relate très étroitement à cela aussi. Voilà. Et la démocratie, elle est un enjeu central au cœur de cela. Il apparaît de plus en plus que ce qui fait époque pour nous, eh bien, c'est que nous subissons une injonction à nous définir dans cet horizon-là. Je veux dire, à définir nos subjectivités, notre condition politique, dans cet horizon-là, à l'exclusion de tous les autres. Subjectivement, si nous voulons être présents aujourd'hui dans un champ politique, il va toujours être supposé que nous nous y prononçons et que nous y agissons en tant que nous sommes des démocrates. Si vous faites irruption dans le champ public, dans un pays comme le nôtre aujourd'hui, en disant « mais moi, je tiens à vous dire d'emblée que je suis tout, sauf un démocrate, vous êtes d'emblée discrédité, vous n'avez pas votre place et vous serez très probablement même criminalisé. » Bon, voilà, ça veut dire ça. Donc ce qui est premier, pour moi, ça n'est pas du tout des questions de ce qu'est la démocratie du point de vue de ses institutions ou de son esprit, ou de la culture qui en constituerait le fond. C'est tout ce qui va se jouer dans ces rapports de force à l'intérieur des énoncés. Voilà.
Alors je disais aussi circulation de ces énoncés, mais à l'intérieur d'un mode de gouvernement spécifique tout de même. Parce que vous donnez donc, disons, un partage entre deux types de modes de gouvernement que vous appelez un mode de gouvernement intelligent, c'est pas forcément positif, et puis un mode de gouvernement bête.
Oui, ce que je veux dire, c'est que la démocratie, elle est, disons, le ruban autour d'un paquet, ruban doré bien sûr, dans lequel il y a ce qui constitue la substance effective du gouvernement des populations aujourd'hui, c'est-à-dire ce que Foucault appelle biopolitique ou dans d'autres perspectives le pastorat du vivant, enfin ça, tout ça, je ne dis pas que tout ça est la même chose, mais disons tout ça converge vers cette idée que l'objet fondamental aujourd'hui de ce qui se nomme la politique, c'est le gouvernement des vivants ou le gouvernement des populations, c'est-à-dire il faut faire tenir tout ça ensemble, il faut le faire vivre, comme dit Foucault, et donc il faut mettre en place fondamentalement, non pas des valeurs, mais des technologies, des stratégies, des dispositifs, des choses qui sont tout à fait spécifiques, dont le fond est toujours, je dirais, fondamentalement technique. Quoi. C'est la façon d'établir des relations spécifiques entre les gouvernants et les gouvernés, de façon à ce que tout ça, disons, je dirais même pas soit cohérent, mais tout ça ne parte pas dans tous les sens. Bon, et ça suppose évidemment beaucoup de choses qui s'inventent progressivement depuis notamment le 19e siècle, c'est-à-dire une façon, disons, d'optimiser la vie des populations, de prendre en charge leur santé, de faire en sorte que les espaces urbains soient à peu près habitables, que les personnes soient éduquées, que sais-je encore, etc. Donc c'est ça le fond du gouvernement moderne ou contemporain, c'est évidemment ça. Ça n'est pas la grande axiologie démocratique, les grandes valeurs démocratiques qui constamment, c'est pas le jeu de l'égalité, c'est par exemple, disons, pour prendre l'élément le plus, disons, le plus litigieux dans les formes contemporaines de la politique.
Au fond, donc, c'est des modes de gouvernement qui travaillent sur aussi la manière dont on va solliciter, comme vous le dites, hein, l'intelligence des sujets. On va, d'une certaine manière, chercher leur adhésion à un certain nombre de valeurs. Et puis, il y a d'autres modes de gouvernement qui sont des modes de gouvernement, disons, plus à l'ancienne, où il y a un pouvoir qui s'impose de manière brutale, quoi, disons, d'une certaine manière, et qui ne cherche pas l'adhésion de ces sujets.
Oui, tout à fait. Donc, j'ai dévié par rapport à votre question. Qu'est-ce que ça veut dire, gouvernement intelligent ? Ça veut dire que ça ne va pas fonctionner sur un mode essentiellement négatif. Ça va fonctionner sur un mode de positivation perpétuelle dans toutes sortes de dimensions. Donc, il va s'agir de saisir ce vivant dans toute sa diversité, naturellement, pour, disons, faire en sorte, d'abord, bon, dans la perspective de Foucault, qu'il soit productif, mais aussi pour que, disons, il dispose d'aptitudes telles que il soit capable de répondre aux incitations qui lui sont lancées par les gouvernants. Donc, il faut que les gens soient éduqués. D'autre part, il ne faut pas que les gens soient terrorisés. Il faut que les rapports de pouvoir présentent une certaine souplesse. Il faut que les gens soient incités à faire toutes sortes de choses qui, précisément, les rendent intelligents, mais les rendent intelligents dans un dispositif général où, naturellement, ils sont assujettis à ce gouvernement de l'élément vivant dans nos sociétés. Il faut être donc intelligent et en même temps assujetti à toutes sortes de dispositifs. Par exemple, si on prend un enjeu comme la santé, il faut que les gens comprennent les messages sanitaires. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ont intérêt à faire les dépistages contre le cancer.
C'est l'intérêt bien compris, quoi.
C'est l'intérêt bien compris qui va faire en sorte que le faire vivre, disons, restera un vecteur fondamental dans ces sociétés, donc l'espérance de vie va s'accroître, disons, d'une façon à peu près continue, que les enfants, disposeront d'un bagage culturel en principe toujours plus important, même si les choses sont infiniment plus compliquées que ça, etc., etc. Et les gouvernements bêtes, c'est ceux qui fonctionnent à l'interdiction et qui, à la limite, sur la base de préjugés idéologiques, religieux, etc., rabougrissent l'existence des individus, ce qui fait que ceux-ci sont de mauvais sujets gouvernés, deviennent de mauvais sujets gouvernés, pas seulement parce qu'ils deviennent rétifs, mais aussi parce qu'ils sont dans des passions tristes, d'une façon générale, que leur existence est rabougrie, et que donc ça fabrique des sociétés qui, certes, vont éventuellement se tenir tranquilles, enfin jusqu'à ce qu'elles aient l'occasion de se soulever, d'ailleurs, mais qui, en tout cas, ne seront pas des sociétés qui sont emprises sur les forces de la vie, pour dire les choses simplement.
Alors voilà, nous avons parlé de cela aussi pour bien comprendre qu'il ne s'agit donc pas d'opposer la question d'État démocratique à des États non démocratiques, car c'est justement ce que vous, d'une certaine manière, vous récusez, ces formes d'opposition ou ces formes de division du monde. Alors maintenant, on va s'intéresser à la manière dont effectivement le mot ou l'énoncé démocratie et de sa dimension stratégique. Vous écrivez la seule chose qui soit constante dans l'objet démocratie aujourd'hui, c'est sa dimension stratégique. Et vous dites, qu'est-ce que la démocratie ? En définitive, pour vous, la démocratie, c'est ce dont il est question dans la guerre des communiqués. c'est-à-dire la démocratie comme une arme.
Oui, bien sûr, parce que la démocratie moderne, depuis qu'elle s'est établie, et spécialement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis la guerre froide, elle est fondamentalement un moyen de promotion d'une hégémonie, qui est celle de l'Occident, qui est toujours en lutte contre des ennemis qui, eux, sont variables, mais dont le propre... est de porter dans le discours occidental en permanence le signe du déficit du côté de ce qui est censé constituer l'universel en termes de valeur de toute politique, disons, présentable, c'est-à-dire l'universel démocratique. Donc ça a toujours été un moyen, en premier lieu au temps de la guerre froide, aujourd'hui contre l'islamisme ou éventuellement contre le régime chinois, de promouvoir la puissance hégémonique de l'Occident contre des régimes concurrents, ou si ce n'est des régimes, des discours ou des idéologies, ou dans les termes de Huntington, des civilisations dans le contexte. C'est un moyen de promouvoir au profit de l'Occident le choc des civilisations. Je ne dis pas que le discours démocratique ou les ambitions de la démocratie se réduisent à ça. Mais ça, c'est l'aspect qui doit toujours être inscrit dans un angle mort lorsqu'on essaye de définir la grande, la démocratie comme fondamentalement un monde de valeurs enchantées. Or ça, c'est au moins premier, je dirais, dans les séquences historiques, donc à partir de 1945, où la démocratie tend à devenir le signifiant majeur de toute politique supportable dans le discours de l'Occident.
Bon, ça, donc... c'est l'usage du mot démocratie, finalement, ou pour la question de la lutte pour l'hégémonie, quoi, d'une certaine manière.
La démocratie, me semble-t-il, pour autant qu'elle n'est pas une espèce flottante, donc qu'elle existe toujours dans ses jeux de force, qu'elle est toujours portée par des locuteurs spécifiques, qu'elle est toujours liée à des puissances particulières, elle est indissociable de ces jeux économiques et hégémoniques. Et ce qui caractérise quand même, me semble-t-il, sur la longue durée, l'histoire de cet Occident-là, c'est que jamais il ne se délie de ses prétentions hégémoniques dans les rapports avec d'autres puissances, avec d'autres parties du monde, etc. Donc on ne peut pas dire la démocratie d'un côté, les jeux d'hégémonie de l'autre, et surtout pas maintenant, évidemment. Donc il n'y a pas d'essence démocratique qui se sépare de ces jeux de force. Et ça aussi, c'est évidemment très... Dans mon travail, c'est très, très inspiré par Foucault, parce que Foucault a toujours mis l'accent sur le fait que ce qui est premier dans le jeu de la politique, c'est les rapports de force, hein, qui peuvent prendre des formes multiples, naturellement, de guerre des espèces, guerre des races, ceci, cela. Mais là, on est dans une configuration spécifique où le nom de la démocratie est l'instrument premier de jeu de force tout à fait singulier. On le voit bien, encore une fois, par exemple, dans les rapports avec la puissance montante de la Chine aujourd'hui.
Ou comme nous savons bien qu'aujourd'hui, beaucoup de guerres se sont menées et se mènent au nom de la démocratie face à des États qui ne seraient pas démocrates. Et on voit bien comment, effectivement, l'usage de ce mot permet de légitimer des entreprises néocoloniales, quoi, disons, d'une certaine manière. Mais il y a aussi un exemple que vous prenez dans votre livre par rapport à la révolution égyptienne, sur cette fameuse guerre décommuniquée, la manière dont, va se jouer tout un dispositif de capture de la démocratie, c'est-à-dire un jeu d'encodage, de réencodage des événements qui ont lieu, par exemple, en Tunisie. Il s'agit de les réencoder pour qu'ils deviennent des événements, à même à faire circuler le mot démocratie.
Alors ici, oui, il y a deux éléments, si on veut. Bon, dans ce chapitre, je prends l'exemple du livre d'un écrivain très talentueux qui s'appelle El Aswani, les Chroniques de la Révolution égyptienne, et qui est un livre qui décrit la situation à tous égards pathétique de l'Égypte à la veille, dans le temps des prémices, disons, des événements de la place Tahrir. Bon, il montre tous les abus de pouvoir sous Moubarak, etc. Il décrit ça avec énormément de talent. Il nous rend ça tout à fait sensible, la torture dans les commissariats. Enfin bon, j'en passe, etc. Et chacun de ces chapitres dans ce bouquin, dans ces chroniques de la Révolution égyptienne, s'achève sur une sorte d'incantation qui est une seule solution, la démocratie. Donc la démocratie, c'est la seule chose qui puisse nous sauver, ou inversement, il suffirait que surgisse le mot de la démocratie pour que cette sorte d'empire du mal, qu'est le pouvoir brutal et autoritaire de Moubarak, s'effondre. Bon. Et puis la prédiction se réalise, effectivement. Moubarak tombe, le mot de la démocratie investit tout l'espace public en Égypte, et puis d'épisode en épisode se passe ce qui se passe, ce que tout le monde sait, ce que tout le monde peut voir aujourd'hui. Après le petit tour de piste de cette démocratie inconsistante, on revient à la case départ, et c'est à nouveau les militaires et à peu près les mêmes dispositifs autoritaires que sous Moubarak. Bon. Et ça, j'en fais une espèce de paradigme, si on veut, parce que je pense que ça fonctionne effectivement comme ça, quoi. C'est-à-dire que la démocratie est un mot puissant, c'est un mot surpuissant, mais c'est un mot surpuissant pour la bonne et simple raison qu'elle est sans contenu. C'est-à-dire que c'est un signifiant vide. C'est un signifiant vide, elle fonctionne comme ça, comme signifiant vide, elle crée de l'attrait. C'est le destin de toute façon de tous les signifiants puissants. Plus ils sont vides, plus ils sont puissants, et le nom de Dieu, c'est comme ça.
Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Des questions après l'explosion de violence hier après-midi à travers le pays. Que s'est-il réellement passé? Qui sont ces milliers de militants qui se réclament d'un mouvement pour le vivant qui ralentissent et parfois même bloquent l'activité dans la plupart des villes? Trafic perturbé, manifestations massives. Gérard Dupin, spécialiste des questions insurrectionnelles et des nouveaux mouvements sociaux, interviendra dans ce journal et nous apportera un écho.
Mesdames et messieurs, excusez pour la gêne. Coupure momentanée de votre journal télé, car notre voix est à chaise. Besoin d'exprimer notre point de vue aux yeux du pays. Exprimer pourquoi on a clamé qu'il était urgent de désobéir. Nous ne sommes pas vos ennemis, bien qu'ennemis du système. Insurgés du règne mis en place par une bande de vipères. Nous sommes de ceux qui se sont levés pour dire non. Fils de la liberté, on se doit d'œuvrer. Parce que leur monde pue la mort, que tout le vivant est wanted. Qu'il ne reflète pas la grandeur que l'humanité porte en elle. Perdu dans sa quête des regrets, plein les doigts. Dit aux tortionnaires qu'on ne les laissera pas tuer notre étoile. Le sang de l'égoïsme a rempli chaque page écrite. Le même four à faire du destin collectif une tragédie.
Veuillez nous excuser pour cet incident technique. Il semblerait que nous ayons quelques problèmes.
Excusez problèmes techniques. Faut dire qu'ils ne veulent pas qu'on vous pose. Notre lutte est légitime face à une politique holocauste. Qui ne changera pas les choses. Ils ont créé les règles telles quelles. Telle et telle guerre tirant profit du centre de terre. Mer au pied du mur, presque prise au piège. Mesdames et messieurs, ne croyez pas que les gouvernements vous protègent. Se prépare le terreau hors pair du plus grand génocide. La famine dans les pays riches, répression mais aussi des épidémies. Peut-être pour qu'on ait peur de se rassembler, ou juste pour puisse laisser un tas de vaccins empoisonnés. Peut-être avec une puce dedans. Serait-ce pour de la surveillance, ou pour modifier nos états psychiques à l'aide de leur fréquence. L'Occident construit des camps, l'Europe s'en prête à réinstaurer la peine de mort spécialement pour les insurgés.
Oh, qu'est-ce qui se passe en régie?
Ça y est, on a l'antenne.
Mesdames et messieurs, nous sommes selon toute vraisemblance victimes d'un piratage malveillant. Les services concernés mettent d'ores et déjà tout en œuvre pour tenter.
Et j'ai pas fini, au nom de ceux qui ne veulent plus subir la flamme au cœur, un idéal qui ne peut cautionner vos supplices, l'espoir d'un nouveau souffle. La quête n'est pas terminée, l'humanité, chaque instant est propice, contient l'éternité, soldat de la paix. Ainsi on s'interroge d'une machine qui assassine. Béni soient ceux qui s'interposent, ceux qui construisent autre chose. Mesdames et messieurs, veuillez ouvrir les yeux, car le monde sera votre propre. Les cœurs sont irradiés, coffres forts barricadés. Tout fleuron du changement finit sous les matraques des brigadiers. Des flics armés au racisme colonial, des principes honorables écrasés car ça ne pense qu'au dollar. Zéro au moral, à force de perdre nos vies, nourris au film américain et à la bouffe de Tchernobyl. Putain, on a dit non à la triche des vainqueurs. Redessine demain, devient peuple, société redevient peuple.
Téléspectateurs, vous venez d'entendre une propagande terroriste faite par des personnes irresponsables. La police nous informe qu'il s'agit d'un groupuscule connu de leur service et qualifié.
Mesdames et messieurs, ne les écoutez pas. Pas de
débat face au dégât. Le mensonge sort de la bouche des médias. Ils veulent nous baïonner, aux tortionnaires distribuent des médailles. Le pilier le plus fonctionnel du terrorisme d'État. Écoutez, clave une clame et à vous autres. Voyez qu'on a plein de belles choses à construire et que personne viendra nous sauver. Tout sonner dehors, sur la foi reste l'or. Êtes-vous d'accord que ce monde ne reflète pas le rêve de l'homme? Révolution intérieure, dès lors qu'on comprend qu'il faut porter le changement dedans pour qu'il puisse éclore. L'urbain sera l'exode, que le verbe nous honore. Car c'est les enfants de la terre contre les armées du vaudor. Mesdames et messieurs, nous sommes ces jeunes qu'on ghettoise. Rappelez-vous de nos paroles lorsqu'ils nous diront terroristes. À l'antenne, c'était Arca du clan des Wanted. Comme un écho d'une promesse lointaine.
C'est des conneries.
Mesdames et messieurs, nous réitérons nos excuses après cet acte révoltant. Nous venons de récupérer définitivement l'antenne. Nous insistons sur le fait que ce groupuscule étant extrêmement dangereux, tout ce que vous venez d'entendre n'est naturellement que pur mensonge.
La démocratie, c'est le titre du dernier ouvrage paru aux éditions Aldent du philosophe Alain Brossa. Il est avec nous dans les studios de Radio Grenouille. La démocratie, ce mot, est aussi ce qui sert à opérer le partage entre amis et ennemis, Alain Brossa.
Oui, c'est là qu'on voit vraiment le caractère stratégique de tous les jeux de langage qui se produisent, tous les effets de mobilisation de discours qui peuvent se produire autour du nom de la démocratie. Ce qui importe dans ces affrontements, c'est vraiment le nom de la chose, quoi. C'est pas du tout les contenus, puisqu'on voit bien comment dans ces affrontements entre ceux qui se sont arrogés le nom de la démocratie, qui donc parlent constamment en son nom, comme ses représentants, mais comme plutôt, je dirais, les détenteurs du titre, et les autres, tous les autres, on voit bien comment c'est pas du tout les contenus qui comptent. Les contenus sont infiniment variables. Et donc on va, par exemple, défendre la démocratie par les moyens les plus antidémocratiques qui soient, ou par en recourant à l'exception. Ça, c'est un jeu tout à fait classique. C'est ce qui se passe après le 11 septembre aux États-Unis, le Patriot Act. Bon, bah, c'est typiquement cette scène-là où la démocratie va se défendre contre ses ennemis, qui sont évidemment des non-démocrates ou des antidémocrates ou des hyper-ennemis de la démocratie en recourant à toutes sortes de dispositifs d'exception. Ou bien on va attribuer le label de démocratique à des régimes alliés ou amis qui, disons, du point de vue de leurs relations avec les populations qu'ils régentent, ne sont pas particulièrement calés sur la normativité démocratique. Donc, on voit bien que ce qui importe, ce qui est structurel et durable dans ces jeux-là, c'est la façon dont ce mot comme mot puissant va permettre de partager le monde, en fait, et de mettre partager le monde sur des lignes de force qui sont les lignes, je dirais, les plus ancestrales qui soient dans les jeux de force, c'est-à-dire, encore une fois, le partage entre amis et ennemis. Ce qui est amusant, ce qui est un grand, je dirais, un paradoxe très, très, très sarcastique de la démocratie contemporaine, c'est que plus elle est dans l'exaltation des valeurs démocratiques, et plus elle utilise cette exaltation des valeurs démocratiques, plus elle en fait une espèce de sport de combat, ou plus elle l'utilise comme une arme de combat, et plus elle est, je dirais, dans les pratiques même, rattachée à des traditions politiques qui sont tout autres, c'est-à-dire la tradition politique qui consiste à établir en premier lieu le partage entre l'ami et l'ennemi. Ça a été défini par un auteur qui s'appelle Carl Schmitt. Et qui n'était pas particulièrement un démocrate, qui était plutôt un ennemi de principe de la démocratie et qui a eu un long compagnonnage avec les nazis. Bon, voilà, c'est ça le paradoxe assez vertigineux, disons, de la situation contemporaine. La démocratie états-unienne aujourd'hui, elle est extraordinairement schmittienne dans ses pratiques et dans ses façons de partager le monde constamment entre amis et ennemis, sur un mode d'ailleurs qui est parfois très, très variable, sans beaucoup de conséquences, voir les rapports de ces gens-là avec les talibans, par exemple.
Ou ce qu'on peut actuellement entendre en France concernant la guerre au Mali, cette phrase, il faut sauver nos amis maliens, maliens et ce qu'il s'agit de sauver, c'est la démocratie malienne. Et ce sont nos amis. Donc souvent, on a ce ami et démocratie qui viennent souvent ensemble aujourd'hui dans les discours en France du président de la République, par exemple.
Oui, la démocratie malienne devient une idéalité pure dans un contexte où précisément ce qui s'est effondré, c'est ce qui s'apparenterait ou se serait apparenté d'une façon ou d'une autre à l'institution démocratique. Donc on survient, l'intervention, le corps expéditionnaire français survient sur ce champ de ruines, et non pas évidemment pour sauver une institution démocratique qui n'existe plus depuis belle lurette, entre autres choses du fait de la corruption des élites politiques et autres locales liées à l'Occident, mais survient bel et bien pour rétablir un ordre qui lui soit favorable, et elle va le faire, l'ex-puissance coloniale ou la puissance néocoloniale va le faire, ce rétablissement va le produire, elle va le produire par les moyens évidemment les plus expéditifs qui soient. Donc en recourant à des moyens de guerre, par exemple, qui supposent qu'on ne fait pas de prisonniers. Qu'on n'est pas dans une guerre conventionnelle, on n'est pas tenu par les conventions de Genève, tout ça se passe en dehors du regard de l'opinion publique, et donc on a carte blanche.
J'aimerais qu'on revienne sur la longue méditation que vous avez donc sur cette formule, la démocratie est la solution. J'aimerais qu'on y revienne, parce que qu'est-ce qui arrive au sujet lorsqu'il s'aperçoit que la démocratie n'est plus vraiment la solution, et de cette expérience de la déception, et quand il rentre dans un certain scepticisme, et comment il s'engouffre ensuite dans des formes de course à la définition de la démocratie, en vérité ce serait celle-ci, ou la vraie démocratie ce serait celle-là, voilà ce piège.
Ce piège, il est visible dans le cas, il est tout à fait constatable dans le cas de cet écrivain égyptien, la Soigny, qui donc, je suppose pour lui, ça a dû être une rude épreuve, donc vu les espérances qu'il avait placées dans ce nom et dans la magie qui était censée opérer ce nom. Donc pendant 2 ans, il a vu comment, littéralement, le mot démocratie lui fondait dans la main au fur et à mesure que les événements s'enchaînaient, et qu'après ce grand mouvement, d'efflorescence, de discussion, d'euphorie sur la place Tahrir, s'enchaînait sur des élections qui portaient les frères musulmans au pouvoir, qui s'efforçaient de mettre en place un régime clérical, qui ensuite se faisait dégommer par les militaires, etc., ce qui aboutit à la situation actuelle. Bon, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui se passe? Le sujet se défait, et se défait y compris moralement, me semble-t-il, en même temps que se défont ses croyances, puisqu'il s'agissait d'une croyance, en l'occurrence, et j'ai eu la tristesse d'entendre à la radio, au mois d'août dernier, à la Soigny, approuver chaleureusement la façon dont expéditive et sanglante dont les militaires égyptiens réglaient, entre guillemets, le problème des frères musulmans, c'est-à-dire en tirant à vue sur des cortèges formés de femmes et d'enfants. Voilà. Donc, le sujet se défait, le sujet devient amer, le sujet succombe aux passions tristes. Et ce qui est arrivé là, donc, à la Soigny face à l'enchaînement des événements en Égypte, c'est ce qui arrive, je dirais, malheureusement, au quelconque, sur un mode qui est évidemment moins virulent, mais ce qui arrive à l'individu quelconque dans nos sociétés, qui va glisser vers toute cette amertume, qui va entrer dans la spirale des désillusions, et qui va nécessairement, à un moment ou un autre, je ne dis pas ça pour faire la morale, mais qui d'une façon ou d'une autre va devenir méchant. Il va devenir méchant, ce qui va se traduire de la manière la plus banale, par le fait qu'il va voter pour le Front National, quoi. Ça, c'est la forme, je dirais, la plus ordinaire que peut trouver cette méchanceté-là.
Principe de désillusion.
Principe de désillusion, amertume. Donc, plus on a cru ou plus on a été éduqué à croire, quoi, au caractère substantiel de cette forme, qui, forme politique, la démocratie, qui serait censée nous garder contre toutes les outrances, être un garde-fou contre toutes les dérives, tous les dérapages, être un monde de tolérance, etc. Et plus on touche du doigt dans son existence propre, je veux dire son existence personnelle la plus intime, comme dans son existence publique en tant que citoyen, plus on touche du doigt que, ben, au fond, non, cette substance, c'est un protoplasme, ça, on n'arrive décidément pas à en trouver le cœur ou le noyau dur, et plus on entre, bien sûr, dans ce monde de désillusions où tout est possible. Enfin, toutes sortes de choses sont possibles, en tout cas. Toutes sortes de choses sont possibles et toutes sortes de dérives vers des situations où le signe démocratique va devenir totalement inconsistant.
Au fond, vous dites qu'il suffit d'arrêter, d'une certaine manière, d'y croire. C'est-à-dire il faut mettre fin à la croyance. Et que vous dites d'ailleurs que la démocratie n'est pas tant exposée au risque d'être abattue par ses ennemis qu'à celui de se dissoudre comme un brouillard et d'être d'une certaine manière désaffecté. C'est-à-dire non pas une lutte contre la démocratie, mais une désaffection, mais comme on peut le constater, sur de, peut-être aussi de moins en moins de gens qui vont voter ou ce genre de choses. C'est-à-dire la question de l'abstention. Se défaire des croyances, c'est tout de même pas si évident. Les croyances, c'est aussi tout un mécanisme complexe, justement, sur ce que vous analysez, sur la manière dont les discours ne cessent de ramener, disons, les sujets à la logique de l'adhésion aux valeurs de la démocratie.
Alors, plusieurs choses là-dessus. Premièrement, la démocratie, ce qu'on désigne comme la démocratie dans les sociétés contemporaines, c'est une formation historique. Et je dirais que c'est une formation historique comme une autre. Et donc, de ce point de vue-là, nous devons en considérer la condition de mortalité exactement au même titre que nous considérons la condition de mortalité de la monarchie absolue. C'est un truc qui marche pendant un moment, qui naît, qui prospère et qui meurt. Hein, ça, je ne veux pas faire un grand discours sur la vie, mais c'est une loi de la vie qui affecte aussi les dispositifs politiques. Donc, on est dans cette situation extrêmement paradoxale aujourd'hui, qui est que plus, je dirais, ces éléments de vérité tendent à être massifs, quoi. C'est-à-dire que ça ne marche plus, ce truc ne marche plus, et donc plus la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie tend à être, en tant que formation historique, un astre mort, et plus l'idéologie démocratique, l'idéologie de la démocratie, c'est-à-dire ce qui tend à l'établir dans une sorte de fin de l'histoire, il ne peut rien y avoir d'autre, ni même, je ne dirais pas de meilleur, mais rien ne pourrait s'y substituer. C'est l'horizon indépassable. Exactement de la même façon que Sartre disait, le marxisme est l'horizon indépassable de notre temps. Dans les années 60, il y croyait dur comme fer. Bon.
Au-delà, c'est la barbarie.
Et au-delà, on peut pas, il n'y a rien à voir, c'est inconcevable. Bon, on est exactement dans cette situation par rapport à la démocratie aujourd'hui. Rien en termes de forme, enfin de constitution, comme disaient les Grecs, ou en termes de régime politique, ne peut s'y substituer, n'est envisageable, ou seulement pour le pire. Bon, et il est très intéressant que ce discours-là, puisque c'est un jeu de discours, soit spécialement puissant aujourd'hui, et puissant au point d'être le seul audible et le seul légitime, dans le temps où se multiplient tous les signes d'enrayement de ce qu'est effectivement la démocratie sur le terrain, c'est-à-dire des façons de faire, et on voit bien comment il y avait des façons de faire qui marchaient encore hier, je veux dire, dans les relations entre gouvernants et gouvernés, dans la façon de gouverner le vivant, il y a des façons de faire qui marchaient encore plus ou moins auparavant, tout ce qui s'agence autour de la représentation notamment, et qui ne fonctionne plus du tout maintenant. Au Mali, dans les élections législatives de résurrection de la démocratie malienne, vous avez 38% de participation. Ça devient structurel. Moins de la moitié du corps électoral dans les démocraties du monde entier ne participe à des prétendues élections dans lesquelles, à l'issue desquelles, le peuple est censé avoir parlé. Bon, des problèmes de cette espèce-là, on peut faire une description, même si on voulait, un peu apocalyptique de tout ça. Donc, c'est ça. la question, elle est vraiment là. Donc, ce qu'il faut maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est comment sauver le nom de la chose et continuer à faire vivre la puissance du nom de la chose dans un contexte où tout ce qui pourrait attester l'existence d'une substance singulière et spécifique de l'institution démocratique est tend vers le champ de ruine. C'est ça le problème.
On pourrait aussi imaginer des formes de plus en plus réelles, une réalité démocratique de plus en plus affirmée du côté d'une démocratie autoritaire, quoi, d'une certaine manière. Puisqu'il s'agira davantage de travailler justement sur la démocratie comme horizon indépassable et de le surjouer ou de le surinsister au moment même où l'adhésion à la démocratie aura été complètement abandonnée. C'est-à-dire qu'on aura un discours qui finira forcément à un moment donné par trouver des formes d'imposition qui pourraient plus ressembler à ces fameux modèles de gouvernement plus anciens, ce qu'on avait appelé tout à l'heure ces gouvernements bêtes, c'est-à-dire ceux qui n'arrivent plus à travailler sur l'adhésion et qui imposent d'une certaine manière.
Oui, je pense qu'on le voit bien, là, on le sent bien à travers toutes sortes d'épisodes et de péripéties dans notre actualité, qu'on est dans un temps de retour, disons, de forme autoritaire. Mais je crois que ce qui est la beauté du système et qui fait que peut-être ce système a encore quelques réserves, c'est qu'il a des capacités de se combiner avec toutes sortes d'autres choses, quoi. Il est compatible avec tout. D'abord, ça, on l'a vu dans l'histoire des démocraties modernes et contemporaines, le nom de la démocratie est compatible avec toutes sortes de choses, à l'exception peut-être, disons, de formes ouvertement totalitaires, ça c'est sûr, mais enfin, du point de vue notamment des formes autoritaires, ça, il n'y a pas de problème. Et donc, je pense, oui, ce qui est probable, c'est que si on pense qu'on va entrer dans un champ de tension au niveau des relations internationales, de tension entre des puissances qui vont être en conflit toujours plus ouvert, je pense notamment le conflit entre les États-Unis et la Chine, alors on va très probablement vers des démocraties militaires, des démocraties proconsulaires ou des choses comme ça. Mais qui auront toujours la capacité de combiner des formes de type militaire, militariste, mais avec d'autres trucs, quoi. Ça dépendra des secteurs. Il y a des choses sur lesquelles, effectivement, il faudra être tous alignés comme un seul homme. Mais pour le reste, on continuera à faire des réformes sociétales du type mariage pour tous, etc. Ça, on peut tout à fait séquencer, on peut tout à fait séparer les choses. Ça, c'est... Il y a de la, je dirais, cet appareillage général du vivant, il y a quand même beaucoup de sophistication. Et c'est ça la différence entre les gouvernements intelligents et les gouvernements bêtes qui, eux, sont sur des trucs primitifs, quoi.
Dans cette idée des démocraties autoritaires, je pensais bien sûr, par exemple, à la Grèce. Aujourd'hui, la situation que vit la Grèce et la manière dont, à un moment donné, les choses sont clairement aussi imposées. Hein. Je veux dire, la question du passage aux urnes n'est qu'une question, effectivement, fonctionnelle. Mais c'est juste pour faire, disons, pour donner une légitimité, mais qui se serait trouvée sans doute aussi autrement.
Oui, mais la Grèce encore, c'est bon, c'est un pays qui s'effondre économiquement, ça produit un effet de souffle sur la société qui est considérable, et après, bon, s'établit cette espèce de système de mise sous tutelle qui, lui, est très, très autoritaire. Bon, la mise sous tutelle par l'Europe, mais ça n'est rien si on compare ça à ce qui va se produire quand des démocraties, enfin ce qui s'est déjà produit et qui se reproduira très probablement dans un avenir plus ou moins proche, quand des démocraties sont en guerre. C'est là que, évidemment, ça change aussi tout à fait le mode de gouvernement interne des populations. Et on voit bien comment les démocraties dans ces périodes-là, dans ces séquences-là, recourent à des moyens de mobilisation totale des populations qui sont, disons, des moyens qui n'ont strictement rien en commun avec ce qui se définit couramment comme le béaba d'une culture ou des façons de faire démocratique, quoi. Les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, après Pearl Harbor, la guerre du Pacifique, je veux dire, les moyens de propagande, la mobilisation d'Hollywood, etc., ça, c'était quand même c'était de la belle ouvrage et sur un mode qui ne doit rigoureusement rien au discours et aux valeurs démocratiques.
Peut-être un dernier point sur cet ouvrage, et c'est la question de la déconstruction que vous faites du fait majoritaire. On dit souvent, oui, mais il y a le fait majoritaire. Les démocraties fonctionnent à la majorité, le choix des majorités. Et vous travaillez sur une déconstruction du fait majoritaire, sur la manière dont, par exemple, on compte, dont on compte les voix ou ce genre de choses.
Oui, fondamentalement, je crois que, bon, on pourrait dire que c'est le cas, disons, pour toute formation démocratique, mais disons, c'est toujours la construction d'une fable ou d'une fiction.
Oui, par exemple, la phrase « la majorité des Français
oui,
ont... »
Les Français ont choisi, etc., voilà. etc. Bon, c'est la construction d'une fable et d'une fiction. Je pense que tous les régimes politiques, au fond, fonctionnent comme ça. Ils ont besoin de fables qui sont des fables légitimatrices, des instruments de légitimation. Et l'essentiel, donc, c'est que les gouvernés adhèrent d'une façon ou d'une autre, même s'ils adhèrent variablement, mais que quand même, pour l'essentiel, les gouvernés adhèrent à la fable. Bon, la fable démocratique moderne, elle est très forte. Et elle est très forte parce qu'elle a notamment en son cœur, enfin son assise essentielle, c'est l'histoire, mais une histoire comme une histoire qu'on raconte aux enfants, hein, de la représentation. C'est ça, c'est là-dessus que vraiment, et ça c'est... C'était le socle de tout ça, l'idée qu'on ne va plus être gouverné par des élites qui s'auto-désignent, mais qu'effectivement le tout venant, c'est-à-dire le citoyen lambda, désigne ses représentants. Bon. Et alors on voit bien comment maintenant cette fable est totalement écornée, comment les gens n'y croient plus, quoi. C'est aussi simple que ça, et ça apparaît comme une histoire à dormir debout, parce que d'une part les majorités constitutives sont de plus en plus réduites, mais également ce qui va frapper aux yeux, c'est que de plus en plus, comme les partis ne jouent plus leur rôle, les partis ne sont plus des partis de classe, représentant des classes, ce sont des partis plébiscitaires, autant de la démocratie du public, alors on est dans cette alchimie extraordinaire où une majorité de gens est censée élire un personnage qui, socialement, culturellement, même politiquement, je veux dire, est sans rapport avec eux, quoi. Donc, c'est, évidemment, cette alchimie, elle peut ce tour de magie, on peut le faire une fois, deux fois, trois fois, mais plus ça va et plus ça sent le truc, quoi. Plus ça sent le truc, et donc plus la désaffection démocratique se produit, et plus donc ce qui va compter politiquement, c'est les gestes de défection, et non pas, je veux dire, c'est tout ce qui va du côté de la destitution et pas du côté de ce qui va du côté de l'institution, tout ce qui institue. Parce que les gouvernants sont toujours institués d'une façon toujours plus misérable et visiblement artificieuse. Voilà.
Sont ce que vous appelez aussi les révoltes de contre-conduite.
Donc on a des contre-conduites, donc on a des résistances de conduite, et donc la politique vive, c'est ça qui me paraît finalement le plus intéressant, c'est que la politique vive, elle se déplace en dehors, tout à fait en dehors du champ de ce qui est censé être l'institution de la politique, quoi. Et donc, la désaffection, elle n'est pas seulement par rapport à l'institution, les gens qui votent plus, etc. Mais nécessairement, je pense qu'à un moment ou un autre, la désaffection, elle doit affecter le nom de la chose elle-même. C'est-à-dire, et je ne dis pas qu'on va renverser... des révolutions, des émeutes, des insurrections vont renverser les institutions démocratiques. Je ne sais pas du tout le schéma que j'ai en tête. Moi, je pense beaucoup plus que c'est par désintensification, désaffection, qu'on va oublier. Je veux dire, la masse des gens vont oublier ce que c'est que ce truc-là pour passer à autre chose quand un nouvel horizon politique se produira. Il faut oublier que l'histoire est faite fondamentalement de discontinuité. On oublie.
émission avec Alain Brossat, philosophe, professeur à l'Université de Paris 8, un philosophe qui travaille essentiellement sur les questions de philosophie politique. Avec lui, nous avons parlé de l'ouvrage La démocratie, publié aux éditions Aldent dernièrement. Et puis, il y a eu d'autres ouvrages publiés dernièrement, en 2013, dont celui-ci, Le plébéien enragé, une contre-histoire de la modernité de Rousseau à Lozé, aux éditions Le passager clandestin. Et il y avait eu un ouvrage qui s'intitulait Le serviteur et son maître, essai sur le sentiment. Plébéen aux éditions Léo Cher en 2003. Alors j'avais une question pour vous, Alain Brossat. Comment circule l'énoncé plèbe dans vos travaux?
Alors je distingue bien plèbe et plébéien. Pour dire les choses en deux mots, dans les deux bouquins que vous venez de mentionner, je parle du plébéien, qui pour moi est vraiment le personnage oublié ou dénié d'ailleurs, qui présente l'égalité dans les sociétés modernes et qui donc est un personnage qui évidemment se repère dans des occasions ouvertement politiques, mais qui est un personnage particulièrement riche et stimulant dans la littérature. Pour moi, les figures natives de ce personnage, c'est Figaro et c'est Jacques, le fataliste, dans le roman de Diderot, c'est-à-dire celui qui a établi une relation avec son maître, dans laquelle il n'est pas du tout question de lutte à mort, il n'est pas question d'exterminer le maître et encore moins de prendre sa place, mais il est question dans des jeux de langage, encore une fois, ou dans des échanges vifs, de faire la preuve de l'égalité, tout simplement, de montrer que le plébéien, celui qui est donc serviteur, dans la position du serviteur, là, il vaut bien son maître. Et à partir de ce moment-là, l'Ancien Régime, quelles que soient les formes politiques réelles, l'Ancien Régime est destitué. Il n'y a plus d'Ancien Régime possible, disons. Il y aura sans arrêt des tentatives de rétablir de l'Ancien Régime. Ça, on le voit bien aujourd'hui. L'Ancien Régime, de ce point de vue-là, il n'est jamais mort, mais il est toujours rendu impossible par cette capacité d'un plébéien, quel qu'il soit, c'est-à-dire vraiment un quelconque, une singularité quelconque, quelle qu'elle soit, de faire la démonstration qui parle aussi bien que son maître, donc il a accès au logos, à la raison, autant que son maître et éventuellement un petit peu plus, parce que la nécessité fait qu'il est un peu plus délié que le maître, l'égalité est là. L'égalité, elle est là, elle n'est jamais instituable, elle n'est jamais pleinement instituable, elle est instituable ponctuellement, mais c'est toujours repris par les formes d'Ancien Régime, mais voilà, il y a de l'égalité. C'est ça qui s'établit dans le jeu du plébéien.
Impossible de ne pas penser aux travaux de Jacques Rancière, oui, sur le maître ignorant ou l'égalité du savoir chez Jacques Rancière. Et d'ailleurs, justement, Jacques Rancière a écrit un certain nombre d'ouvrages sur la démocratie. Ce sont des ouvrages sur lesquels vous vous reconnaissez ou pas du tout? C'est ceux sur la démocratie, car je crois que dans cet ouvrage La démocratie, vous apportez quelques critiques à la manière dont Jacques Rancière, ce sera la dernière question, à la manière dont Jacques Rancière aborde la démocratie.
Il y a certainement un socle commun qui tourne autour de l'égalité et peut-être la communauté, je ne sais pas. Là où je me séparerais de Rancière, tout en reconnaissant l'importance de son travail, évidemment, c'est d'une part sur la question du plébéien, qui, moi, je pense, est un personnage clé de la modernité, alors que Rancière, lui, n'a que des formules, je dirais, de désinvoltes, voire de mépris. Pour lui, c'est une mode, tout simplement. Et d'autre part, sur la figure dans laquelle, ou ce que Rancière appelle l'opération, qui consiste justement à présenter l'égalité. Je crois qu'il met l'accent, bon, à juste titre évidemment, sur le fait que il y a une scène qui se crée sur laquelle fait irruption quelqu'un qui est sans part, donc qui n'est pas compté dans le jeu de la politique institutionnelle, voire dans le jeu social, et se sans part dans une situation où il y a du litige, du conflit, etc. Il fait la preuve qu'il peut formuler des idées politiques, qu'il est cultivé, qu'il a lu des livres, que ceci, cela, etc. Et moi, je pense que ce qui manque dans cette démarche-là, ce qui reste en suspens, c'est le point sur lequel il y a une impossibilité, se produit, apparaît une impossibilité d'accéder à l'espace public sur ce mode-là, de réaliser cette opération. C'est-à-dire là où les gens qui éprouvent un différend violent avec disons, la façon dont les choses sont établies, qui sont en colère, qui ont une plainte à porter dans cet espace public, et bien là où ces gens-là, ils n'accèdent pas, pour des raisons diverses, mais ils n'y accèdent pas. Et donc il y a un retour de violence vive par ce biais-là.
En fait, c'est d'une certaine manière une forme d'impensé de la technique, parce que la question de l'accès, c'est une question de technique aussi, parce que en fonction des époques, l'expression, elle est aussi technicisée. Et finalement, la question d'accéder à la possibilité de manifester sa possibilité d'être dans un dialogue et d'échanger, c'est une question de technique aussi, non ?
Oui, c'est ça certainement, parce qu'on voit bien, si on reprend l'exemple de Figaro ou de Jacques Levatalis, que ce sont des rhétoriciens redoutables, donc ils ont accédé aux techniques du discours. Pour le reste, moi je mettrais surtout l'accent sur la constitution des espaces publics. Ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a des gens, il y a des catégories entières qui n'accèdent pas à la parole publique pour des raisons innombrables, mais donc qui ont une plainte à porter devant le tribunal de l'opinion ou devant des instances légitimes et qui ne peuvent pas le faire et qui donc qui vont être enfermés dans leur colère et dans leur ressentiment. Et qui, pour cette raison-là, vont entrer dans des formes de violence éruptive.
Mais ils ne peuvent pas le faire, soit parce qu'on ne leur donne pas la parole, soit parce que c'est une impossibilité aussi technique.
Non, je ne pense pas que c'est une impossibilité technique. Je pense qu'au fond, tout le monde peut parler. Donc, ce n'est pas qu'ils sont muets. Ça n'est pas qu'ils sont muets, c'est que les dispositifs constitutifs des espaces publics font qu'il y a non seulement des inégalités dans la répartition de l'accès à la parole, mais il y a des catégories entières qui, du fait de stigmates qui pèsent sur eux, du fait de leur excentrement, du fait qu'ils sont désocialisés ou peu importe, ou qui viennent d'ailleurs, ou qui n'ont pas accès à la langue, qu'il faudrait parler à ce moment-là, qu'ils ne la maîtrisent pas, et qu'ils ne vont pas pouvoir faire entendre leur position, faire valider leur position et faire entendre leur voix, faire entendre ce qu'ils ont à dire, donc leur point de vue sur le monde. Et leurs intérêts ne seront pas pris en compte, tout simplement. Ce seront d'autres qui parleront pour eux, sur un mode vindicatif ou au contraire sur un mode humanitaire. Mais en tout cas, eux n'auront pas accès à la parole. Et donc, évidemment, ils trouveront d'autres accès aux espaces communs.
Merci Alain Brossard d'avoir accepté cette discussion. Je rappelle cet ouvrage aux éditions Aldent, La démocratie. Merci beaucoup Alain Brossard.
C'est moi qui vous remercie.
And replace it with something better.
And replace it with something better.
Just here in this square.
Just here in this square.
There are probably 20 different alternatives to capitalism.
There are probably 20 different alternatives to capitalism.
Because what you have here.
Because what you have here.
Is people from all sorts of backgrounds.
Les documents de la grenouille. Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.